Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 100, Daf Kouf. Bonne écoute et bon limoud.
L'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtaot. Donc d'une part, celle où Rabbi Shimon dit qu'une personne en état de deuil intense peut consommer le Korban Pessah, et l'autre où Rabbi Shimon dit qu'il n'a même pas le droit de le sacrifier. Alors Kan, ici dans la Braïta, Shemet Lomet Beyudalet, il s'agit d'une personne dont un proche parent est décédé le 14 Nissan Vekavro Beyudalet, et il l'a enterré le jour même, donc le 14 Nissan. L'Agmara précisera Kan, ici dans la Braïta, qui dit que Rabbi Shimon permet de consommer la viande du Korban Pessah, Shemet Lomet Beyud Gimel, il s'agit d'une situation où un proche parent est décédé le 13 Nissan, donc deux jours avant Pessah, Vekavro Beyudalet, et il l'a enterré le 14, donc la veille de Pessah. La Gemara précise, Met Lomet Beyudalet, lorsqu'un proche parent est décédé le 14 Nissan, Vekavro Beyudalet, et il l'a enterré le jour même, donc le 14 Nissan, Yom Mita Tofes Lelo Midoraita, l'état de deuil intense existant le jour du décès se poursuit la nuit Minatora. Par conséquent, il ne peut pas consommer la viande du Korban Pessah, et c'est pourquoi donc il ne pourra même pas offrir le Korban Pessah. Et c'est donc de cela que parle la dernière Braïta, qui enseigne que la personne en état de deuil intense ne peut pas offrir le Korban Pessah. Met Lomet Beyud Gimel, mais lorsqu'un proche parent est décédé le 13 Nissan Vekavro Beyud Dalet, et il est enterré le 14 Nissan, Yom Kvura Midrabanan, étant donné que l'état de deuil intense existant le jour de l'enterrement, qui a lieu un autre jour que celui du décès, est uniquement Midrabanan, et Notofes Lelo Ela Midrabanan, ne se poursuit la nuit que Midrabanan. Et donc lorsqu'il y a un commandement sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, ce décret des Chachamim ne tient pas. Il aura donc le droit de consommer la viande du Korban Pessah, et donc même de l'offrir la veille de Pessah. Et c'est de cela que parle la première Braïta, où Rabbi Shimon dit que celui qui est en état de deuil intense peut consommer la viande du Korban Pessah. Puisque selon Rav Mari, l'état de deuil intense existant le jour de l'enterrement se poursuit la nuit qui suit Midrabanan, donc finalement, en aucun cas, une personne en état de deuil intense n'aura le droit de consommer la viande des sacrifices la nuit qui suit l'enterrement. Forcément, ce que nous voyons dans notre Mishnah, que le Kohen en état de deuil intense a le droit de consommer la viande des sacrifices, il s'agit de la nuit de Pessah, où il a le droit de consommer la viande du Korban Pessah, étant donné que les Chachamim ont levé l'interdiction en ce qui concerne la viande du Korban Pessah, il aura le droit de consommer aussi la viande d'autres sacrifices. Et ce donc, comme Rav Yirmiya de la ville de Difti a interprété la contradiction entre notre Mishnah et celle de Masechet Psachim. Amarle, Rav Ashi, le Rav Mari, ve Elaha de Katane. Mais en ce qui concerne ce qui est enseigné dans la Braïta, Amarle, Rabbi Shimon a dit à Rabbi Yehuda, qui disait que l'état de deuil intense se poursuit la nuit, même Minatora, Teda, sache-le, que le fait que l'état de deuil intense se poursuit la nuit est uniquement Midrabanan, chez Are Amrou, car les Chachamim ont dit, Onen Tovel Vochel et Pisro, Avalo Bekodashim, une personne en état de deuil intense peut se purifier et consommer la viande du Korban Pessah la nuit, mais pas la viande d'autres sacrifices. Apparemment, Rabbi Shimon parle de la nuit qui suit l'enterrement. Nemale, Rabbi Yehuda n'avait qu'à lui répondre, Kamina lecha anayom mita doraita. Moi, je te parle de l'état de deuil intense, la nuit qui suit le jour du décès, dont l'état de deuil intense existe minatora. Et donc, c'est pour cela que je dis que cet état se poursuit la nuit qui suit. Vamartli at yom kvura de la banane. Et toi, tu me parles de l'état de deuil intense qui existe la nuit qui suit le jour de l'enterrement, ou même cet état existant le jour de l'enterrement n'est uniquement midrabanan. Donc finalement, qu'est-ce que Rabbi Shimon apporte comme preuve contre Rabbi Yehuda? Puisque Rabbi Shimon lui-même est d'accord qu'en ce qui concerne la nuit qui suit le jour de l'enterrement, que cet état de deuil intense est minatora. La Gemara conclut, Kashia, c'est une bonne question, elle n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Abaye Amar, Abaye dit, donc il propose une quatrième réponse. La Kashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot, donc les deux enseignements de Rabbi Shimon. Kan, ici, dans la deuxième braïta, Shemet Kodem Chatzot, il s'agit d'un cas où un proche parent est décédé avant midi. Donc, avant que prenne effet l'obligation d'offrir le Korban Pessah, la Gemara précisera, Kan Shemet Lachar Chatzot, ici, dans la première braïta, il s'agit d'une situation où un proche parent est décédé après midi. Alors, la Gemara précise, Kodem Chatzot, lorsqu'un proche parent est décédé avant midi de l'eau Irzi le Pessah, où il n'avait pas encore la possibilité d'offrir le Korban Pessah, car celui-ci n'est offert qu'à partir de l'après-midi, Chayla Aleh Aninut, l'état de deuil intense prend effet sur lui, et donc Minatora, il ne peut pas offrir de sacrifice. Car, selon cette interprétation d'Abaye, l'enseignement de Rabbi Shimon dans la deuxième Braïta, selon lequel une personne en état de deuil intense ne peut pas offrir de sacrifice, n'est pas, comme nous l'avons compris jusqu'à présent, une interdiction Midrabanan avec appui sur un pasouk, mais en fait, il s'agit d'une interdiction Minatora. Donc, lorsque l'état de deuil intense prend effet, une personne n'a pas le droit d'offrir de sacrifice Minatora. Par conséquent, il n'offrira pas le Korban Pessah, il offrira le Korban Pessah de rattrapage le 14 Iyar. Achar Chatzot, mais lorsqu'un proche parent est décédé après-midi, des Irzé le Pessah, où il lui est possible d'offrir le Korban Pessah, c'est-à-dire après que le moment pour offrir le Korban Pessah est arrivé, Lochaila Aleh Aninut, l'état de deuil intense ne prend pas effet sur lui, il pourra donc offrir le Korban Pessah, et il pourra aussi le consommer le soir. Et cela, bien qu'Abaye pense que l'obligation de consommer le Korban Pessah n'est pas impérative pour que le Korban Pessah soit valable. En effet, ce n'est que Rava qui le dit par la suite dans la prochaine réponse. Cependant, et c'est d'ailleurs de là que nous le prouvons, puisque le fait que l'état de deuil intense la nuit qui suit le décès existe uniquement Midrabanan, les Chachamim ont levé leur interdiction et ont donc permis la consommation du Korban Pessah, car sinon, il y a le risque que cette personne ne veuille pas offrir le Korban Pessah étant donné qu'il ne veut pas le consommer, et il transgressa une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Donc, pour éviter cela, les Chachamim ont donc permis la consommation du Korban Pessah. Mais en ce qui concerne d'autres sacrifices, les Chachamim ont interdit d'en consommer la nuit qui suit le décès, même le soir de Pessah. Et c'est donc cela que Rabbi Shimon dit dans la première Braïta, qu'une personne en état de deuil intense peut consommer le Korban Pessah et pas d'autres sacrifices. Et notre Mishnah, de laquelle nous pouvons prouver qu'une personne en état de deuil intense peut consommer la viande des sacrifices, il s'agit d'une situation où l'enterrement a eu lieu le lendemain, et donc il s'agit de la nuit qui suit, où il n'y a même pas d'interdiction au Midrabanan de consommer des sacrifices. Alors, la Gemara demande, « Umena Timra, d'où sais-tu d'échané le ben kodem chatzot ben l'acha chatzot ?» qu'il existe une différence entre le cas où le décès a lieu avant midi et celui où il a lieu après midi. La Gemara répond, « De Tania, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Kaf Aleph, concernant l'interdiction pour les kohanim de se rendre impurs par contact avec un cadavre humain, sauf si c'est un membre de la famille proche qui est décédé. » Alors le pasouk dit, « Et pour sa sœur vierge qui ne s'est jamais mariée, la yitama, pour elle, il se rendra impur. » Alors la Braïta interprète, « Mitzvah, c'est un commandement, donc il a l'obligation de se rendre impur pour un membre de la famille qui est décédé. » L'oratza, si le Kohen ne veut pas se rendre impur pour ce membre de la famille qui est décédé, « Metam inoto bal kocho » on le rend impur malgré lui. Umaase Yosef a Kohen, il y a une histoire avec Yosef le Kohen, Shemeta Ishto Bereva Pesach, dont la femme est décédée la veille de Pesach, Veloratza Litame, il n'a pas voulu se rendre impur pour pouvoir offrir le sacrifice. Venimnu Echav Hakohanim, et ses frères les Kohanim ont pris une décision par un vote, Vetim Uhu Bal Kocho, et ils l'ont rendu impur malgré lui. En tout cas, nous voyons donc que même lorsqu'un proche parent est décédé la veille de Pessah, il doit se rendre impur, et par conséquent, il ne pourra pas offrir le Korban Pessah. Veraminhi, et on oppose à cela la braïta suivante, qui concerne les lois du Nazir, qui fait un vœu d'abstinence pour une période durant laquelle il n'aura pas le droit de boire de vin, ni de se rendre impur par contact avec un cadavre humain, ni de se couper les cheveux. Alors, lorsque le Passouk prescrit cette interdiction pour l'abstinent de se rendre impur par contact avec un cadavre humain, il dit, il ne se rendra pas impur ni pour son père, ni pour sa mère. Puis il poursuit, Vela Achoto, ni pour sa sœur. Alors, la question se pose, Matalmud Lomar, qu'est-ce que le Passouk nous enseigne en précisant qu'il n'a pas le droit de se rendre impur non plus pour sa sœur qui est décédée, alors que même pour ses parents, il ne peut pas se rendre impur. La Gemara rapporte ici uniquement la fin de la Braïta, dont le début, que nous verrons plus loin, interprète tous les termes mentionnés par le Passouk, le père, la mère et le frère. En tout cas donc, qu'est-ce que nous apprenons du terme « ni pour sa sœur » ? La Braïta répond « Hare sha'alach lishchot et pisro velamulet beno » Si cet abstinent était parti en voyage pour sacrifier son korban Pessah ou bien pour circoncire son fils, car s'il a des enfants qui ne sont pas circoncis, il ne peut pas consommer le korban Pessah. Donc finalement, il est parti le circoncire pour pouvoir offrir ensuite le korban Pessah. Veshama shemet lomet, et il a entendu qu'un proche parent est décédé, yachol yitama, on pourrait penser qu'il aura le droit de se rendre impur pour ce proche parent. Amart, tu peux le dire toi-même, le pasuk dit lo yitama, il n'aura pas le droit de se rendre impur. Donc par le terme de achoto, sa sœur, qui est en plus, nous apprenons que non seulement l'abstinent ne peut pas se rendre impur pour sa sœur ou pour un proche parent, mais même en plus s'il s'apprête à sacrifier le korban Pessah. La Braïta poursuit, Yachol keshem shelo itama le'achoto. On pourrait penser que de même qu'il ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur qui est décédée, kach en mitame lemet mitzvah. Ainsi, il n'aura pas le droit non plus de se rendre impur pour un cadavre humain pour lequel il y a un commandement spécial de l'enterrer. C'est-à-dire, il s'agit d'un cadavre humain trouvé dans la nature où il n'y a personne pour l'enterrer. Et il est donc la seule personne à pouvoir le faire. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk précise Vela Achoto et pour sa sœur, ce qui veut nous enseigner, La Achoto hu de'eno mitame, c'est uniquement pour sa sœur qu'il n'aura pas le droit de se rendre impur. Aval mitame hu le met mitzvah, mais il aura le droit de se rendre impur. Il sera d'ailleurs tenu de le faire pour un cadavre humain qu'il est une mitzvah d'enterrer, donc il n'a personne pour s'en occuper. En tout cas, il y a donc une contradiction entre les deux braïtot. Dans la première braïta, nous voyons que même si une personne s'apprête à offrir le korban Pessah, il a l'obligation de se rendre impur pour un proche parent qui est décédé, tandis que dans la seconde, nous voyons le contraire. Nous lisons, selon la Shittam Kubetzet, et la lave n'est-ce pas donc Shema Mina, nous pouvons déduire de là, Kan, ici, dans la première braïta, Kodem Chatzot, il s'agit d'une situation où un proche parent est décédé avant midi, donc avant que prenne effet l'obligation d'offrir le korban Pessah, et il aura donc l'obligation de s'occuper de ce proche parent qui est décédé, il aura l'obligation de se rendre impur. Kan, ici dans la seconde braïta, le Achar Chatzot, il s'agit d'un cas où ce proche parent est décédé après midi, il a donc déjà l'obligation d'offrir le korban Pessah, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour enterrer ce proche parent. Nous voyons donc que dès que prend effet l'obligation d'offrir le korban Pessah, cette obligation repousse les autres obligations qui viennent après, donc par exemple celle de se rendre impur pour enterrer un proche parent, elle repoussera aussi cette obligation d'être en état de deuil intense qui interdit d'offrir un sacrifice. La Gemara demande, Mimai, d'où sais-tu que c'est cela la différence et c'est ainsi qu'on interprète cette contradiction entre les deux braïtot? Dilma, peut-être que Leolam et Malecha, toujours pourrais-je te dire, Idi Veidi Achachatzot, dans les deux braïtot, il s'agit d'une situation où une personne est décédée après midi. Veha est la deuxième braïta qui enseigne que celui qui s'apprête à sacrifier le korban Pessah ne doit pas se rendre impur pour un proche parent qui est décédé. Rabbi Ishmael suit l'opinion de Rabbi Ishmael, que nous verrons. Veha, tandis que la première braïta, qui dit qu'une personne doit se rendre impur lorsqu'un proche parent est décédé, Erev Pessah, Rabbi Akiva suit l'opinion de Rabbi Akiva, d'Etania, car il est enseigné. Lorsque le Passouk dit dans Vaikra Kafalef, concernant l'interdiction pour les Kohanim de se rendre impur par le contact avec un cadavre humain, sauf pour un proche parent qui est décédé, le Passouk dit La Yitama, il se rendra impur pour elle, donc pour sa sœur. Rechout, c'est en fait facultatif. D'ivrei Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, selon Rabbi Ishmael, le Kohen a le droit de se rendre impur pour un proche parent qui est décédé, mais il n'a pas l'obligation de le faire. Rabbi Akiva Omer, Chova, il est obligé de le faire. Donc, nous pouvons dire que la deuxième braïta suit l'opinion de Rabbi Ishmael. Et c'est pourquoi, puisque c'est facultatif de se rendre impur pour un proche parent qui est décédé, lorsqu'il s'apprête à sacrifier le Korban Pessah, il n'a pas le droit de le faire. Tandis que selon Rabbi Akiva, qui pense que c'est une obligation de se rendre impur pour un proche parent qui est décédé, c'est une obligation qui ne peut pas être repoussée, car c'est uniquement avant l'enterrement qu'il a cette obligation. Cette obligation irremplaçable repoussera l'obligation d'offrir le Korban Pessah qui a un remplacement, et cela, indépendamment du moment où le proche parent est décédé, soit avant midi, soit même après midi. Et en fait, si, pour une raison ou une autre, il ne s'est pas rendu impur pour enterrer son proche parent, il aura le droit d'offrir le Korban Pessah, car l'état de deuil intense n'empêche pas d'offrir le Korban Pessah. Finalement, on ne pourrait pas prouver de cette braïta qu'il existe une différence entre le cas où le proche parent est décédé avant midi et celui où il est décédé après midi. L'agma répond, « L'osal kadatar, il ne peut pas te venir à l'esprit une interprétation pareille. « Derecha dehahi » car le début de cette braïta qui dit que celui qui s'apprête à sacrifier le Korban Pessah n'a pas le droit de se rendre impur, Rabbi Akiva Katanela, c'est Rabbi Akiva lui-même qui l'a enseigné, Detania, car il est enseigné dans une braïta. Il s'agit du début de la braïta que nous avons vue précédemment, qui interprète le pasouk dans Bamidbar Vav concernant l'abstinent. En le pasouk qui décrit cette interdiction pour l'abstinent de se rendre impur par contact avec un cadavre humain, le pasouk dit Al nefesh met loyavo, pour l'âme d'un mort, il ne viendra pas, c'est-à-dire il n'aura pas le droit de se rendre impur. Or, la braïta, donc Rabbi Akiva, interprète ce pasouk de la manière suivante. Nefesh, le terme de nefesh, Eloua Krovim, parle des proches parents. Met, le terme de mort, donc cadavre humain. Eloua Rochokim parle de ceux qui sont éloignés, donc qui ne sont pas de sa famille. En fait, ce n'est pas des mots du pasouk que nous déduisons qu'il lui sera interdit même de se rendre impur pour les membres de sa famille, mais du fait que le terme de nefesh est en plus, nous apprenons que le pasouk veut aussi inclure les membres de sa famille. Ainsi, les précisions supplémentaires du pasouk sont en plus. Lorsque le pasouk dit « Léa vive pour son père », donc il n'aura pas le droit de se rendre impur pour son père, le pasouk veut nous enseigner « Léa vive enomitame », il n'aura pas le droit de se rendre impur pour son père, « Aval mitame hu le met mitzvah », mais il aura le droit de se rendre impur pour un mort pour lequel il y a un commandement spécial de s'en occuper, c'est-à-dire pour un cadavre humain pour lequel il n'y a personne pour s'en occuper, il est le seul présent. Les imo, lorsque le pasouk précise en plus pour sa mère, donc pour sa mère non plus, il n'aura pas le droit de se rendre impur, le pasouk veut nous enseigner la chose suivante. Haya kohen ve'u nazir, s'il était kohen et aussi abstinent, quand même, les imo hu de no mitame, pour sa mère, il n'aura pas le droit de se rendre impur, aval mitame hu le met mitzvah, mais il aura le droit de se rendre impur pour un mort pour lequel il y a une mitzvah particulière de s'en occuper. Les achiv, lorsque le pasouk précise en plus pour son frère, le pasouk veut nous enseigner, sheimaya kohen gadol vehu nazir, que s'il était kohen gadol, donc il a une sainteté supplémentaire, il n'a pas le droit de se rendre impur pour tout cadavre humain, et en plus il était abstinent, quand même, l'achiv hu de no mitame, pour son frère, il n'aura pas le droit de se rendre impur. Aval mitame hu le met mitzvah, mais il aura le droit de se rendre impur, il aura d'ailleurs l'obligation de le faire pour un mort pour lequel il y a un commandement particulier de s'en occuper lorsqu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Vela achoto, lorsque le pasouk précise en plus, pour sa sœur non plus, il n'aura pas le droit de se rendre impur. Matalmud lomar, qu'est-ce que ce passage nous enseigne? La Breta répond, Rabbi Akiva donc répond, Haresh alach lishrot et pisro velamulet beno, si il était parti pour sacrifier son Korban Pessah ou pour circoncire son fils pour pouvoir ensuite sacrifier le Korban Pessah comme nous l'avons expliqué, Veshama shemet lomet, et il a entendu qu'un proche parent à lui est décédé, Yachol Yitama, on aurait pu penser qu'il aurait le droit de se rendre impur, Amar, tu peux le dire toi-même, Lo Yitama, il n'a pas le droit de se rendre impur, Yachol keshem she'en mitame la'achoto, on pourrait penser que de même qu'il ne peut pas se rendre impur pour sa sœur, car Eno Metame, l'Emet Mitzvah, ainsi il ne pourra pas se rendre impur non plus pour un mort pour lequel il y a une mitzvah particulière de s'en occuper lorsqu'il n'y a personne d'autre. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit Vela Achoto est pour sa sœur. Pour nous dire, La Achoto lo Itama, pour sa sœur, il n'aura pas le droit de se rendre impur, Aval Yitama hu l'Emet Mitzvah, mais il aura la permission, d'ailleurs l'obligation, de se rendre impur pour un mort pour lequel il y a une mitzvah particulière de s'en occuper lorsqu'il n'y a personne d'autre. En tout cas, nous voyons donc que c'est Rabbi Akiva lui-même qui enseigne que celui qui s'apprête à sacrifier le Korban Pessah, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un membre de sa famille qui est décédé. Forcément, il faut faire la différence entre le cas où un proche parent est décédé avant midi et celui où le proche parent est décédé après midi. Dans ce dernier cas, l'obligation d'offrir le Korban Pessah repoussera l'obligation de se rendre impur pour enterrer un proche parent. Nous pourrons dire qu'il en sera de même pour l'état de deuil intense, qui prend effet si le proche parent est décédé avant midi, mais s'il décède après midi, l'obligation d'offrir le Korban Pessah repoussera cet état de deuil intense.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous sommes Masechet Zvachim Daf Kuf Amud Bet en haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent l'enseignement de notre Mishnah, selon lequel une personne en état de deuil intense, le jour d'un décès d'un proche parent, n'a pas de part dans les sacrifices s'il s'agit d'un Kohen. Cependant, la Gemara déduit que le soir, il pourra manger des sacrifices si toutefois un autre Kohen lui en donne pour en manger. La Gemara opposait à cela une Mishnah dans Maseret Psachim qui dit qu'une personne en état de deuil intense peut se purifier et consommer la viande du Korban Pessah le soir, donc la nuit qui suit le décès apparemment, mais ne peut pas manger de la viande d'autres sacrifices. Donc finalement, ces deux Mishnayot se contredisent. La Gemara a proposé deux réponses. La première, celle de Rav Yirmiya Midifti, en établissant d'abord que ces Mishnayot suivent l'opinion de Rabbi Shimon, qui pense que le fait que l'état de deuil intense qui se poursuit la nuit qui suit un décès est uniquement Miderabanan. Et puisque l'offrande du Korban Pessah est un commandement sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, les Chachamim ont levé leur interdiction et ont permis de consommer la viande du Korban Pessah. Et puisqu'il lui sera permis de manger la viande du Korban Pessah, il lui sera permis aussi ce soir, donc le soir de Pessah, de manger de la viande d'autres sacrifices. Mais si le décès a lieu un autre jour où il n'y a pas de raison de lever cette interdiction, le soir qui suit le décès, il lui sera interdit de consommer la viande d'autres sacrifices. Donc, notre Mishnah, dans Maseret Zvachim, parle du soir de Pessah, où de la même manière qu'il lui est permis de manger la viande du Korban Pessah, il lui sera permis aussi de manger la viande d'autres sacrifices. Rav Assi propose une autre réponse, et dit qu'il est vrai que la nuit qui suit le décès, l'état de deuil intense se poursuit Midérabanan, et il lui sera donc permis de consommer que la viande du Korban Pessah, comme la Mishnah l'enseigne dans Masechet Psachim. Mais notre Mishnah parle d'un cas où l'enterrement du défunt a eu lieu un autre jour, puisque l'état de deuil intense qui existe le jour de l'enterrement est uniquement Midérabanan, cet état ne se poursuit pas la nuit qui suit, et il lui sera donc permis de manger même de la viande d'autres sacrifices, comme nous le déduisons de notre Mishnah. Alors la Gemara demande comment peut-on dire que ces Mishnayot suivent l'opinion de Rabbi Shimon, puisqu'il y a une autre Braïta où Rabbi Shimon dit clairement qu'une personne en état de deuil intense ne peut pas offrir de sacrifice. Donc même s'il est vrai que théoriquement la personne en état de deuil intense aurait pu consommer la viande du Korban Pessah la nuit qui suit le décès, cependant le jour même où il doit offrir le sacrifice, il ne peut pas l'offrir. Apparemment, la Gemara a compris que c'est une interdiction minatora, puisque le Korban Pessah est enseigné clairement dans cette Braïta. La Gemara propose plusieurs réponses. La première, celle de Rav Chisda, qui dit qu'en fait, c'est une erreur dans la Braïta. Donc le fait que le Korban Pessah a été mentionné dans la Braïta l'a été inutilement. Et cette interdiction qu'une personne en état de deuil intense a d'offrir des sacrifices est uniquement Midérabanan. Mais lorsqu'il s'agit du Korban Pessah, qui est un commandement sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, comme nous l'avons mentionné, cette interdiction est levée, il pourra donc offrir le Korban Pessah et consommer la viande du Korban Pessah le soir de Pessah. Deuxième réponse, celle de Rav Shechet, qui suit la même idée, mais il dit que le Korban Pessah mentionné dans la Braïta est en fait le Korban Shlamim qui accompagne le Korban Pessah pour pouvoir consommer le Korban Pessah lorsque la personne est rassasiée. Et donc, ce que la Braïta enseigne, c'est que si la personne en état de deuil intense peut offrir le Korban Pessah, car les Chachamim ont levé l'interdiction comme nous l'avons expliqué, mais les sacrifices qui accompagnent le Korban Pessah, donc le Korban Shlamim qui accompagne le Korban Pessah, il n'aura pas le droit de le sacrifier. Et c'est de cela donc que parle la Braïta. Troisième réponse, celle de Rav Mari. Rav Mari modifie un peu l'opinion de Rabbi Shimon. Il dit donc que l'état de deuil intense le jour du décès d'un proche parent est minatora, cela nous le savions, mais il dit que cet état se poursuit minatora la nuit qui suit le décès. Donc, lorsqu'un proche parent est décédé la veille de Pessah, cette personne qui est en état de deuil intense ne peut pas offrir le sacrifice puisque de toute façon, il ne pourra pas consommer la viande du sacrifice. Et la Mishnah dans Maseret Pesachim, donc la Braïta, où Rabbi Shimon dit que l'état de deuil intense se poursuit la nuit Midrabanan, il s'agit de la nuit qui suit l'enterrement, lorsque le défunt a été enterré un autre jour. Et donc, dans ce cas, lorsqu'il s'agit du Korban Pessah, il pourra le consommer donc la nuit qui suit l'enterrement. Et c'est de cela que parle Rabbi Shimon et la Mishnah dans Maseret Pesachim. Forcément, nous devons dire, comme nous l'avons expliqué, que notre Mishnah dans Maseret Zvachim, qui dit qu'une personne en état de deuil intense peut consommer la viande des sacrifices pendant la nuit, il s'agira aussi de la nuit qui suit l'enterrement. Et nous devrons forcément appliquer cette réponse de Rav Yirmiya, selon laquelle notre Mishnah parle du soir de Pessah ou du fait qu'il peut consommer la viande du Korban Pessah, il peut consommer la viande d'autres sacrifices, mais la nuit qui suit l'enterrement un autre jour de l'année, il n'aura pas le droit de manger la viande des sacrifices étant donné que l'état de deuil intense se poursuit la nuit Midrabanan. Quatrième réponse, celle d'Abaye. Il dit que la Braïta ou Rabbi Shimon enseigne qu'une personne en état de deuil intense n'a pas le droit d'offrir de sacrifices est en effet une interdiction minatora. Cependant, cette Braïta parle d'un cas où le proche parent est décédé avant midi, qui est l'heure de l'obligation d'offrir le Korban Pessah. Donc l'état de deuil intense prend effet et Minatora ne pourra pas offrir son Korban Pessah. Il n'y a pas lieu donc de lui permettre d'en manger. Mais la Mishnah dans Maseret Pesachim parle d'une situation où le proche parent est décédé après midi, où l'obligation d'offrir le Korban Pessah a pris effet. Cette obligation repousse l'état de deuil intense. Il aura le droit donc d'offrir le Korban Pessah et aussi de consommer la viande du sacrifice. Cependant, nous pouvons quand même comprendre les paroles de Rabbi Shimon qui dit que du fait que la personne en état de deuil intense peut consommer la viande du sacrifice, du Korban Pessah donc, c'est une preuve que le fait que cet état se poursuit la nuit qui suit le décès, c'est uniquement Midrabanan. Car selon Abaye, le fait de consommer la viande du Korban Pessah n'est pas impératif pour que le sacrifice soit valable. Et c'est pourquoi, selon lui, lorsque nous parlons d'une personne en état de deuil intense, il s'agit d'un cas où il n'a pas encore offert le Korban Pessah, et on lui permet donc de le sacrifier, forcément pour le consommer ensuite. Mais si un proche parent était décédé après la sacrification du Korban Pessah, il n'y a aucune raison de lui permettre de consommer la viande du Korban Pessah. Donc, puisqu'il s'agit de sacrifier le Korban Pessah, si l'état de deuil intense se poursuivait la nuit qui suit le décès Minatora, il aurait eu l'interdiction de consommer la viande du Korban Pessah, étant donné que l'état de deuil intense prend effet avant l'obligation de consommer la viande du Korban Pessah. Forcément, s'il lui est permis de manger la viande du Korban Pessah, c'est parce que l'état de deuil intense qui se poursuit la nuit qui suit le décès, c'est uniquement Midrabanan, et les Chachamim ont levé cette interdiction de peur que cette personne, si elle sait qu'elle n'a pas le droit de consommer la viande du Korban Pessah, négligerait aussi de le sacrifier et il transgresserait donc une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Nous verrons maintenant la cinquième et dernière réponse, celle de Rava. Alors Rava Amar, Idi Veidi, dans les deux Braïtot, soit celle où Rabbi Shimon enseigne qu'une personne en état de deuil intense n'a pas le droit d'offrir des sacrifices, soit celle où Rabbi Shimon enseigne qu'une personne en état de deuil intense peut consommer la viande du Korban Pessah, Achar Chatzot, il s'agit d'une situation où le proche parent est décédé après-midi, donc après qu'a pris l'effet l'obligation d'offrir le Korban Pessah. Cependant, cette obligation ne repousse pas l'état de deuil intense, c'est au contraire l'état de deuil intense qui repousse cette obligation. Vela Kashia, il n'y a pas de contradiction entre ces deux braïtotes. Kan ici, dans la seconde braïta qui enseigne qu'une personne en état de deuil intense ne peut même pas offrir le Korban Pessah, Kodem Shechartou Vezarku Alav, il s'agit d'une situation où le proche parent est décédé avant qu'on ait sacrifié et aspergé le sang du Korban Pessah au profit de cette personne. Dans cette situation, il ne pourra effectivement pas sacrifier le Korban Pessah et il en sera donc dispensé. Kan, ici, dans la première braïta où Rabbi Shimon enseigne qu'une personne en état de deuil intense peut consommer la viande du Korban Pessah, c'est la Chal Shechartou Vezarku Alav. Il s'agit d'une situation où le proche parent est décédé après qu'on ait sacrifié et aspergé le sang du Korban Pessah pour lui. Donc, étant donné qu'il a déjà sacrifié le Korban Pessah, il s'agit donc uniquement de consommer la viande du Korban Pessah. Étant donné que cette obligation n'est que la nuit qui suit le décès, l'état de deuil intense se poursuit uniquement midrabanan et elle est donc repoussée par l'obligation de consommer la viande du Korban Pessah. Amarle, Rav Ada bar Matna le Rava. Rav Ada, fils de Matna, a posé la question suivante à Rava. Achar Shechartou Vezarku et Damo. Après qu'on a sacrifié, aspergé le sang du Korban Pessah, Ma Dehava Ava. Ce qu'il y a eu, il y a déjà eu. C'est-à-dire, pourquoi lui permettre de consommer la viande du Korban Pessah, puisqu'il n'y a pas de risque qu'il ne sacrifie pas le Korban Pessah, étant donné qu'il a déjà été sacrifié. Donc, pourquoi lever l'interdiction? L'Agma répond, Amarle Ravina, Achilat Psachim Meakva, la consommation du Korban Pessah est impérative pour que celui-ci soit valable. Et ce, Mide Rabba Bar Ravuna, nous pouvons le déduire de l'enseignement de Rabba Bar Ravuna. Amarle, Rabba, Adi Aravada Bar Matna, Tsaït, Maïleka Amarlach Rabach, écoute ce que ton maître Ravina t'a dit, car effectivement, il a donné la bonne réponse, c'est-à-dire effectivement, c'est vrai que la consommation du Korban Pessah est impérative pour que le sacrifice soit valable. C'est pour cela donc que les Chachamim ont levé l'interdiction de consommer la viande des sacrifices en état de deuil intense et lui ont permis la consommation du Korban Pessah. La Gemara demande « Maï de Rabba Baravuna ?» Quel est cet enseignement de Rabba Baravuna dont nous avons parlé? La Gemara répond « De Tania, car il est enseigné dans une braïta. » Yom Shmua ki Yom Kvura. Le statut du jour où une personne a entendu la nouvelle d'un décès d'un proche parent est le même que celui du jour de l'enterrement d'un proche parent, les mitzvot Shiva ou Shloshim, en ce qui concerne l'obligation d'observer les 7 jours de deuil et des 30 jours. C'est-à-dire, lorsqu'une personne entend le décès d'un proche parent dans les 30 jours qui suivent son décès, il devra observer une période de 7 jours de deuil pendant laquelle il ne pourra pas se laver ni porter des chaussures. Puis, il observera une période de deuil plus léger jusqu'à 30 jours qui suivent l'enterrement ou le jour où il a entendu la mauvaise nouvelle, pendant laquelle il n'aura notamment pas le droit de se laver les habits ni de se couper les cheveux. Ou la Chilat Psachim, mais en ce qui concerne la consommation du Korban Pessah, Kiyom Likut Atzamot, le jour où il a entendu la nouvelle d'un décès d'un proche parent, a le même statut que celui du jour où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer ailleurs. La Breta poursuit, Echadze Vechadze, soit celui-ci, soit celui-ci, comme l'Agmara l'expliquera par la suite. Forcément, ce que la Breta veut dire, soit le jour où il a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, soit le jour de l'enterrement d'un proche parent, Tovel Veochel Bekodashim Laerev, il peut se purifier dans le bain rituel et consommer la viande des sacrifices dès la tombée de la nuit. L'Agmara demande Hagufa Kashia. Ces deux passages de la Braïta se contredisent. Amart, tu dis d'abord Yom Shmua que Yom Kvura le Mitzvat Shiva Ushloshim. Tu dis que le statut du jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent est comme celui du jour du décès d'un proche parent en ce qui concerne l'obligation d'observer une période de 7 jours et de 30 jours de deuil, ou l'achilat psachim kiyom likutat samot, et en ce qui concerne l'obligation de consommer la viande du Korban Pessah, le statut du jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent est comme celui où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer ailleurs. Michlal, nous pouvons donc déduire de ce passage de la Braïta, de Yom Kvura, que le jour de l'enterrement d'un proche parent, Afilula Erev Namilo Achil, même la nuit qui suit l'enterrement, il ne pourra pas consommer la viande du Korban Pessah. Ve'adar Tane, puis ensuite, il est enseigné à la fin de la Braïta, Echadze ve'echadze, soit celui-ci, soit celui-ci. Apparemment, soit le jour où une personne a entendu le décès d'un proche parent, soit le jour de son enterrement. Tovel ve'ochel bekodashim la'erev, il peut se purifier dans un bain rituel et consommer la viande des sacrifices dès la tombée de la nuit. Donc, même la nuit qui suit l'enterrement, il peut consommer la viande des sacrifices. La Gemara répond, Amar Rav Chisda Tanaehi, c'est une discussion entre des Tanaïm. Donc, le premier passage de la Braïta pense que la nuit qui suit le jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, ou la nuit qui suit le jour où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer, il lui est permis de consommer la viande du Korban Pessah, et d'ailleurs même la viande d'autres sacrifices. Mais la nuit qui suit l'enterrement, il lui sera interdit de consommer la viande des sacrifices, et même la viande du Korban Pessah. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce passage de la Braïta mentionne la consommation du Korban Pessah, pour nous enseigner que la nuit qui suit l'enterrement, il est même interdit de consommer la viande du Korban Pessah. Et ce, car ce Tana pense que l'état de deuil intense se poursuit même la nuit qui suit l'enterrement, même lorsque l'enterrement a lieu un autre jour que celui du décès. Et les Chachamim n'ont pas levé l'interdiction même concernant le Korban Pessah, car ils pensent que la consommation du Korban Pessah n'est pas impérative pour que le sacrifice soit valable. Donc, contrairement à l'opinion de Rabbi Shimon que nous avons vu précédemment. Le deuxième passage de la Braïta pense que la nuit qui suit l'enterrement, il est permis de consommer non seulement la viande du Korban Pessah, même la viande de tous les autres sacrifices. Car selon lui, la nuit qui suit l'enterrement, lorsque l'enterrement a lieu un autre jour que celui du décès, il n'y a même pas d'interdiction midrabanan de consommer la viande des sacrifices. Rabba bar Ravuna Amar, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux passages de la Braïta. Kan, ici, dans le deuxième passage de la Braïta, qui permet de consommer la viande des sacrifices, même la nuit qui suit l'enterrement, il s'agit d'une situation, chez Shama Shmuel Meto Samuch Lishkiat Achama, où il a entendu une nouvelle, donc, du décès d'un proche parent, proche du coucher du soleil, donc avant le coucher du soleil, et aussi de la situation où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer avant le coucher du soleil, et aussi de la situation où un proche parent est décédé et l'enterrement a eu lieu la veille de Pessah avant le coucher du soleil. Dans ces situations, dès la tombée de la nuit, c'est donc la nuit qui suit le jour où il a entendu la nouvelle, ou la nuit qui suit le jour où on a réenterré les ossements d'un proche parent, ou la nuit qui suit l'enterrement d'un proche parent, il lui sera permis de consommer la viande du Korban Pessah et même la viande d'autres sacrifices. Kan, mais ici, au début de la Braïta, où on fait la différence entre le jour où cette personne a entendu la mauvaise nouvelle du décès d'un proche parent et le jour de l'enterrement d'un proche parent, le'achash ki atachama, il s'agit d'une situation où il a entendu cette nouvelle après le coucher du soleil, ou bien lorsqu'on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer par le moyen d'un goy après le coucher du soleil, ou bien lorsqu'on a enterré un proche parent à lui, aussi par le moyen d'un goy après le coucher du soleil. Dans cette situation, finalement, la nuit de Pessah sera considéré comme étant le jour où il a entendu la nouvelle, ou le jour où on a réenterré les ossements d'un proche parent, ou le jour de l'enterrement d'un proche parent. Dans cette situation, on fait la différence entre le jour de l'enterrement et le jour où il a entendu la nouvelle. S'il s'agit du jour où il a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, ou s'il s'agit du jour où on a réenterré les ossements d'un proche parent, il aura le droit de consommer la viande du Korban Pessah. Mais s'il s'agit du jour de l'enterrement d'un proche parent, il n'aura pas le droit de consommer la viande du Korban Pessah. Alors la question se pose sur cette réponse de Rabba bar Ravuna, l'Achash ki atachama, s'il s'agit d'une situation où l'enterrement a lieu après le coucher du soleil, ou bien s'il a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent après le coucher du soleil, Maïde Ava Ava, ce qui a eu lieu a eu lieu. Autrement dit, pourquoi lui permettre de consommer la viande du Korban Pessah puisqu'il a déjà été sacrifié? Il n'y a donc rien à craindre. Et là, Shma Mina, forcément, nous devons déduire de là que Achilat Psachim Me'akva, la consommation du Korban Pessah est impérative pour que celui-ci soit valable. Et c'est pour cela que les Chachamim ont levé l'interdiction de consommer les sacrifices, puisque lorsqu'il s'agit du Korban Pessah, il s'agit d'un commandement sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Cependant, s'il s'agit du jour de l'enterrement, dans la situation que nous avons expliquée, les Chachamim ont été plus stricts, car en général, l'enterrement a lieu le jour du décès, où même Minatora, il est interdit de consommer la viande des sacrifices. Et comme la Gemara l'explique dans Maaser Psachim Tzadibet, il existe des situations où les Chachamim ont maintenu leur décret, même dans une situation où celui-ci s'oppose à un commandement sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Rav Ashi Amar, Mai Echadze Vechadze, il propose donc une autre réponse. Que veut dire la Braïta lorsqu'elle dit soit celui-ci, soit celui-ci? Harika Amar, c'est cela qu'elle veut dire. Echad Yom Shmua, soit le jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, Vechad Yom Likut, soit le jour où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer, Tovel Veochel Bakodashim Laerev, il peut se purifier dans un bain rituel pour consommer la viande des sacrifices dès la tombée de la nuit. Donc, selon cette interprétation de Rav Ashi, même le deuxième passage de la Braïta ne parle pas de la nuit qui suit l'enterrement d'un proche parent. La Gemara conclut, Veha de Rav Ashi Badutahi. Et cette interprétation de Rav Ashi est extérieure, c'est-à-dire elle est inacceptable. Et ce pour la raison qui suit. Mirde Allah Kae, puisque c'est de cela que nous parlons, c'est-à-dire du jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, ou du jour où on a ramassé les ossements d'un proche parent pour les réenterrer. Zevezemi Baele. La Braïta aurait dû s'exprimer en disant celui-ci et celui-ci. Pourquoi la Braïta s'exprime en disant Echadze, Vechadze, soit celui-ci, soit celui-ci? Forcément, ce que la Braïta veut dire, soit le jour où une personne a entendu la nouvelle du décès d'un proche parent, soit le jour de l'enterrement. C'est le cas dont ne parlait pas la Braïta précédemment. Et là, Shma Mina, forcément, tu pourras déduire de là, Badutahi, cette interprétation de Rav Ashi est inacceptable. Il faudra donc choisir entre les deux réponses précédentes, celle de Rav Hisda et celle de Rabba Bar Avuna. Nous avons vu précédemment la réponse de Rav Hisda, qui dit que les deux passages de la Braïta dépendent d'une discussion entre des Tanaïm. Donc, selon un des Tanaïm, la nuit qui suit l'enterrement, l'état de deuil intense se poursuit, il est interdit de consommer des sacrifices, tandis que selon l'autre Tana, il sera permis de consommer des sacrifices la nuit qui suit l'enterrement. La Gemara demande « Umay Tanaï, où est-ce que nous avons vu une discussion entre des Tanaïm à ce sujet ?» La Gemara répond « Etania, car elle est enseignée dans une Braïta. » La Braïta demande « Admatai mitonen alav, jusqu'à quand doit-il observer cet état de deuil intense où il n'a pas le droit de consommer la viande des sacrifices ?» La Braïta répond « Kol ayom, toute la journée. » Rabbi Omer, Kol zman shelo nikbar, tant qu'il n'a pas été enterré, il observe cet état de deuil intense. La Gemara demande, de quoi s'agit-il? Que veut dire la Braïta? Il est ma beyom mita, si la Braïta parle du jour du décès d'un proche parent. Donc, le premier auteur de la Braïta dit qu'il observe cet état de deuil intense toute la journée, mais pas la nuit. Tandis que selon Rabbi, il l'observe jusqu'à l'enterrement. Mi ika deletle. Deyom mita tafis lelomi de rabanan. Existe-t-il un Tana qui pense que l'état de deuil intense ne se poursuit pas la nuit qui suit le décès d'un proche parent, au moins mi de rabanan? Alors que, comme nous l'avons vu précédemment, même Rabbi Shimon et Rabbi que nous verrons par la suite, qui sont plus indulgents concernant cet état de deuil intense, pensent que la nuit qui suit le décès d'un proche parent, l'état de deuil intense se poursuit mi de rabanan. Veut tout, et en plus, lorsque Rabbi Omer, dans la Braïta, donc Rabbi dit, Kolzman Shelonikbar, l'état de deuil intense se poursuit tant qu'il n'est pas enterré, nous pouvons donc déduire de cette phrase, Hakavro, donc s'il l'a enterré, Ishterele, il lui est devenu permis de consommer la viande des sacrifices, car l'état de deuil intense a disparu. Alors la question se pose, Umi ka deletle, existe-t-il un Tana qui n'applique pas ce que le Passouk dit dans Amos Chet. C'est une prophétie concernant la destruction d'Eretz Israël. Alors le pasouk dit « Et je mettrai un état de deuil en Eretz Israël qui ressemblera à celui d'une personne qui a perdu un fils unique. » Le pasouk conclut en disant « Ve'acharita keyomar » et sa fin, donc la fin du peuple d'Israël, sera comme un jour d'amertume. C'est le jour de deuil intense. De là, nous déduisons que l'état de deuil intense se poursuit au moins une journée, donc jusqu'à la fin de la journée, même si le défunt a été enterré au milieu de la journée. Nous noterons que Rashi interprète ce pasouk un peu différemment. Il dit que ce pasouk veut dire comme suit « Et la fin de la prostituée sera un jour d'amertume, car son amant mourra. Il y aura donc un état de deuil intense pour les membres de sa famille. » Mais en tout cas donc, de ce pasouk, nous apprenons que l'état de deuil intense se poursuit une journée entière. C'est pourquoi, Amar Rav Shechet, Ayom Kvura Kae, cette braïta parle du jour de l'enterrement qui a lieu un autre jour que celui du décès. Et donc, selon le premier auteur de la braïta, l'état de deuil intense se poursuit toute la journée de l'enterrement, tandis que selon Rebbi, il s'arrête dès l'enterrement, même au milieu de la journée. Matkifla, Rav Yosef a objecté là-dessus. Et là, ha de katane, mais en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une braïta, Hashomea Almeto, celui qui entend une nouvelle du décès d'un proche parent, Kemelaket Atzamot, a le même statut de deuil que celui dont les ossements d'un proche parent ont été déterrés pour être enterrés ailleurs. Tovel Veochel Bekodashim Laerev, il peut se purifier dans un bain rituel et consommer la viande des sacrifices dès la tombée de la nuit. Miklal, on peut donc déduire de cette braïta que nous avons vue précédemment, de Yom Kvura, qu'en ce qui concerne le jour de l'enterrement, afilu la'erev namilo achil, même après la tombée de la nuit, il ne peut pas consommer la viande des sacrifices. Donc, nous déduisons de cette braïta que l'état de deuil intense se poursuit même la nuit qui suit l'enterrement d'un proche parent. Alors, Hamane, quel est l'auteur de cette braïta, puisque même selon le premier auteur de la braïta qui est plus strict, l'état de deuil intense ne se poursuit que jusqu'à la fin de la journée. Et là, plutôt, Taritz interprète la braïta de la manière suivante. Ad matay miton ninalav, jusqu'à quand on observe l'état de deuil intense, kol oto ayom velelo, toute la journée et la nuit qui suit, il s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, du jour de l'enterrement qui a lieu un autre jour que celui du décès. Rabbi Omer, kol zman shelonikbar, il est vrai qu'il doit observer un état de deuil intense, même pendant la nuit, mais ceci tant que ce proche parent n'a pas été enterré, avant Nikbar, mais s'il a été enterré, Belolelo, il observe l'état de deuil intense sans la nuit qui suit l'enterrement. Autrement dit, l'état de deuil intense s'arrête à la fin de la journée de l'enterrement. Donc finalement, la braïta que nous avons vue précédemment suit l'opinion du premier auteur de cette braïta. Amruha Kame de Rabbi Irmiya, on a rapporté cette interprétation de la braïta devant Rabbi Irmiya. Amar, il a dit là-dessus, Gavra Rabak Rabbi Yosef Lemahi, est-ce qu'un grand homme comme Rabbi Yosef peut-il dire une chose pareille? Lema de Rabbi Lekula, qu'il dise donc que l'opinion de Rabbi est celle la plus indulgente. Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta. Admatai mitonen alav, jusqu'à quand doit-il observer l'état de deuil intense? Kolzman shenonikbar. Donc, la réponse de la braïta, c'est tant que ce proche parent n'a pas été enterré, afilu mikan vada saraemim, même à partir de maintenant jusqu'à 10 jours plus tard. Donc même s'il a été enterré 10 jours plus tard, il doit toujours observer l'état de deuil intense. D'ivrei Rebbi, ce sont les paroles de Rebbi. Vachachamim omrim, tandis que les chachamim disent, en mitonen alav ela oto ayom bilvad, il n'observe l'état de deuil intense que cette journée. Forcément, nous ne pourrons pas dire que l'état de deuil intense s'arrête même avant l'enterrement. Forcément, ce que les chachamim veulent dire, c'est que l'état de deuil intense n'existe que pendant la journée de l'enterrement, mais pas la nuit qui suit. Tandis que Rebbi dit que l'état de deuil intense se poursuit la nuit, même si l'enterrement a lieu 10 jours plus tard. Donc forcément, Rebbi est plus strict et pense que l'état de deuil intense se poursuit même la nuit de l'enterrement. Et là, plutôt Taritz Achi, c'est ainsi qu'il faut interpréter la braïta. Admatai hu mitonen alav, jusqu'à quand doit-il observer l'état de deuil intense, en ce qui concerne le jour de l'enterrement? Kol oto ayom belolelo, toute la journée de l'enterrement, mais pas la nuit qui suit. Rebbi Omer, tandis que Rebbi dit, Kolzman chez Lonikbar, nous sautons les mots suivants selon la Shita Mukubetset, Tofes lelo. Tant qu'il n'a pas enterré, l'état de deuil intense se poursuit la nuit. Autrement dit, l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit l'enterrement, peu importe le jour de l'enterrement. Amruha Kameh de Rava, on a présenté cette interprétation devant Rava. Il a dit la chose suivante. Mi de Kama Rebbe Yom Kvura Tofes Lelo Midrabanan, puisque Rebbe dit que le jour de l'enterrement, l'état de deuil intense se poursuit, même la nuit qui suit, Midrabanan, Miklal, nous pouvons donc déduire de là, de Yom Mita, qu'en ce qui concerne le jour du décès, Tofes Lelo Midoraita, que l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit le décès, même Minatora. Alors la question se pose, Vesavar Rebbe Aninut Laila Doraita, est-ce que Rebbe pense que le fait que l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit le décès est Minatora? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Yud. C'est Aaron HaKohen qui répond à Moshe Rabbeinu le jour de l'inauguration du Mishkan où deux de ses enfants, Nadav et Avihu, sont morts. Il répondait à la question de Moshe Rabbeinu qui lui a reproché pourquoi il n'a pas mangé la viande du Korban Khatat. Alors il lui répond, Hen Hayom, voici qu'aujourd'hui, etc. La réponse sera expliquée en détail dans le das suivant, mais en tout cas, ce qu'il voulait lui dire, c'est que pendant la journée du décès, il était en état de deuil intense, il n'avait pas le droit de consommer des sacrifices. En tout cas, de cette expression, nous pouvons comprendre qu'il y avait ici quelque chose de particulier qu'il n'y a pas dans les générations à venir. Alors, l'auteur de la Braïta interprète le pasouk de la manière suivante. « Ani hayom asur ve laila mutar » Aujourd'hui, dans ces conditions particulières, où il n'y a pas d'autres kohanim pour consommer les sacrifices, car ils sont tous en état de deuil intense, aujourd'hui, pendant la journée, je suis en état de deuil intense, je n'ai pas le droit de consommer les sacrifices, mais la nuit qui suit, j'ai le droit de le faire, ou le dorot, mais pour les générations à venir, où lorsque un kohen est en état de deuil intense, il y aura toujours d'autres kohanim pour consommer la viande des sacrifices, ben bayom ou ben balayla asur, soit pendant la journée, soit pendant la nuit qui suit, il est interdit, donc l'état de deuil intense se poursuit. Minatora, divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, aninut laila enami divrei Torah enami divrei Sofrim. Le fait que l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit le décès, ce n'est pas Minatora, mais uniquement Midrabanan. Nous voyons donc que Rabbi dit clairement que l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit le décès, uniquement Midrabanan, et non pas comme on pourrait le comprendre, que c'est Minatora, étant donné que, selon Rebbe, la nuit qui suit l'enterrement, l'état de deuil intense se poursuit Midrabanan, bien que le fait qu'il existe un état de deuil intense le jour de l'enterrement, c'est uniquement Midrabanan, lorsque le jour du décès est dépassé. L'agma répond, Léolam, toujours pourrais-je te dire Drabanan hi, que le fait que l'état de deuil intense se poursuit la nuit qui suit le décès, c'est uniquement Midrabanan.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.